Radio Okapi.
La grande édition dominicale de nos informations vespérales avec Pierrot et la Mégie.
Les affrontements depuis vendredi entre les FRDC et la milice Niatoura CMC de Domi font au moins 6 morts, dont 2 civils et 4 combattants, ainsi que plusieurs blessés dans les groupements Bukombo et Bichoucha dans les territoires des Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Tout en saluant l'avènement d'une nouvelle ère politique, Luinto, les députés honoraires s'engagent à dénoncer preuve à l'appui tous ceux qui saignent à blanc les trésors publics. Ils préconisent que la lutte que mène le chef de l'État s'étende aussi dans les provinces. Idesbald Chinamula, DG de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, sera avec nous avant la fin de ce journal. Il évoque le projet d'électrification des milieux ruraux et périurbains à travers le fonds Mwinda. Il est l'invité de votre journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'écoute de cette édition d'information mise en onde par Alain Ngoy. Au Nord Kivu, au moins 6 morts, dont 2 civils et 4 combattants, ainsi que plusieurs blessés. C'est le bilan provisoire des affrontements signalés entre le FRDC et la milice Niatoura CMC des Domi dans le groupement Bukombo et Bichoucha. Nous sommes dans la chefferie de Buito, dans le territoire de Rutshuru. Des sources locales parlent des opérations militaires menées dans cette partie depuis vendredi. Plus de détails.
Les affrontements d'hier samedi ont duré presque toute la journée dans la localité de Machango, groupement Bukombo. Les 2 civils tués sont tous des hommes âgés de 35 et 24 ans, atteints par balles perdues, précisent les sources sécuritaires dans la région. Parmi les blessés, 3 autres civils acheminés dans une structure de santé à Bukombo. Côté milicien, 4 morts, dont 2 officiers autoproclamés et 3 blessés qui seraient pris en charge à l'hôpital général de Mweso. La société civile de Tongo indique en outre qu'une petite accalmie s'observe actuellement dans la localité de Bouchouli après des tirs intenses le vendredi et qui ont permis à l'armée de déloger ses combattants Niatoura de CMC. Un enfant avait trouvé la mort et sa mère blessée. Les présidents de cette structure saluent ces opérations et demandent aux FARDC de laisser des unités permanentes dans ces zones pour que ces rebelles ne puissent revenir après les opérations. Nous n'avons pas réussi à joindre le porte-parole des opérations Sokola 2 pour sa réaction. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Parlons encore insécurité au sud Kivu voisin et précisément dans la ville de Bukavu où la situation sécuritaire prend de plus en plus des dimensions inquiétantes. 4 personnes ont été tuées le samedi 30 janvier dans la commune urbaine de Kadutu et Bagira. La population crie au secours. Emmanuel Elmejoua Kabedi.
La première attaque des bandits armés est intervenue samedi aux environs de 14 heures. Les malfrats ont emporté de l'argent et autres biens du quartier Mossala en commune de Kadutu. Dans leur fuite à moto, un d'entre eux est appréhendé et lynché à mort sur place par la population. À 19 heures, dans la même commune de Kadutu, les bandits en armes attaquent un shop de vente de téléphones portables au quartier Kasali à Limanga. Ils tuent un jeune homme de 17 ans et blessent un motard par balle. Les malfrats abandonnent leur véhicule qui sera saccagé par la population. Le même soir, aux environs de 20 heures, c'est un dépôt relais qui sera attaqué au quartier Chahi en commune de Bagira. Ils tuent une femme et son bébé qu'elle portait au dos. Cette résurgence de l'insécurité sur la ville de Bukavu inquiète maintenant les habitants qui se disent abandonnés. Le commissariat de la police du Sud Kivu avait affirmé à Radio Kapi être sur les traces des bandits qui utilisent un nouveau mode opératoire, celui de voler et tuer même en pleine journée. Emmanuel Elamejoua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Retournons au Nord Kivu où plus de 20 000 personnes déplacées réparties en plus de 5 000 familles vivent dans des conditions humanitaires précaires dans la zone de santé de Kiondo. Nous sommes dans la chefferie des Bachou, de territoire de Beni. Ceci est contenu dans le rapport de l'ONG MAPD, mission d'aide aux personnes en détresse basée dans la ville de Butembo. Cette ONG dit avoir mené une étude d'évaluation de 2 semaines sur les conditions des vies de ces déplacés dont la majorité sont venus du secteur des Rwenzori depuis le mois d'octobre dernier, fuyant les atrocités des ADEF. Théophile Lutsumbi Katembo, coordonnateur de cette structure humanitaire, s'est confié à Grace Amzati.
Vous allez savoir par exemple que la zone de santé de Kiondo, qui compte 22 aires de santé, a accueilli 21 035 personnes déplacées qui sont regroupées à 5 016 familles de ménage. Ils arrivent sans habits. La plupart des déplacés que nous avons interrogés, ils quittaient là et traversaient directement le parc de Virunga via le chemin de Kamba Karuruma à pied, plus de 45 km à pied. Toute une famille avec des affaires de moins de 5 ans, nous avons trouvé que les conditions sont précaires, catastrophiques. Ils n'ont pas quoi manger. Je fais l'exemple d'une famille avec un demi-hectare de champ, accueille 20 personnes. Comment on va les nourrir? Quand vous logez dans une chambre de 2 mètres sur 2, vous logez par exemple 10 personnes. En voulant chercher une solution à un problème de la guerre, ils peuvent créer d'autres problèmes de maladies.
L'ONG MAPD recommande à cet effet à la communauté humanitaire tant nationale qu'internationale de venir au secours de ces personnes et au gouvernement congolais de pacifier la zone afin que ces personnes retournent dans leur milieu d'origine. Cette information, en bref, le directeur des cabinets du chef de l'État, Guylain Nyembo, a édicté une série de mesures conservatoires consécutives à la démission du premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Dans un communiqué daté de ce 30 janvier 2021, le directeur des cabinets annonce la suspension des recrutements, nominations et la promotion du personnel à tous les niveaux. Il suspend également tout engagement, liquidation et dépaiement de toutes les dépenses autres que les charges du personnel. Les voyages à l'extérieur du pays des membres du gouvernement et ceux de leur cabinet sont concernés par cette mesure. Le député honoraire Louis Ntolé salue l'avènement d'une nouvelle ère politique et s'engage à dénoncer preuve à l'appui tous ceux qui saignent à blanc les trésors publics. Cet ancien interfédéral du PPRD dans le Katanga l'a fait savoir ce samedi au cours d'une conférence de presse qu'il a animée à Lubumbashi. Il préconise que la lutte que mène le chef de l'État s'étende aussi dans les provinces. On écoute le député honoraire Louis Ntolé dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
Dorénavant, nous allons commencer à dénoncer. Nous sommes en train de multiplier les démarches auprès du chef de l'État pour qu'il comprenne que la lutte qu'il fait au niveau national doit se faire aussi dans des provinces. Vous savez, c'est loin du chat que la souris danse. C'est la même chose. Ici en province, nous n'allons pas commencer à parler sans preuve. Nous allons commencer à réunir toutes les preuves, n'est-ce pas, pour que, éventuellement mettre en accusation des gens qui s'amusent à détourner les deniers publics de l'État. C'est notre argent, à nous tous. Par conséquent, on ne peut pas admettre qu'un quidam se permette de jouer avec l'argent de la province. La province appartient à tout le monde. Nous tous, nous sommes concernés par la gestion de la chose publique. Les gens là qui gèrent sont comptables de nous.
La charpente politique du pays subit des modifications profondes. L'année 2021 sera une année d'opérationnalisation de la vision du chef de l'État. C'est ce qu'a fait savoir l'autorité morale du mouvement pour la solidarité et les changements. C'était ce samedi 30 janvier à l'occasion de la cérémonie de l'échange de vœux organisée au siège de ces partis politiques alliés de l'UDPS. On écoute Laurent Batumona dans ses propos recueillis par Jacques-Yves Molima.
La charpente politique du pays est en train de subir des modifications profondes. Profondes qui permettront qu'avec le gouvernement de l'Union sacrée, le président pourra avoir la position confortable pour rendre opérationnelle sa vision. Sa vision qui a été annoncée lors de sa candidature comme président de la République. Aujourd'hui, le président, 2 ans, nous avons tourné en rond. Je l'avais annoncé au Palais de la Nation et ça suffisait. Il fallait que cette mutation puisse avoir lieu, ces choses faites, et nous pensons que cette année 2021 va apporter beaucoup de succès pour le bien-être du peuple congolais. Les bouleversements qui viennent s'opérer vont donner beaucoup de succès. Il faut d'abord que le budget qui a été voté soit exécuté à 100% en termes d'opérations de recouvrement des ressources.
Nous poursuivons ce journal à Kikwit dans la province du Kwilu où les commerçants congolais s'insurgent contre la vente des articles en détail par ceux expatriés, ce qui les empêche de bien vendre. Pour ces commerçants, ces derniers sont censés ne vendre qu'en gros. Ils en appellent à l'intervention de l'État. Et pour sa part, le chef de bureau des services de l'économie urbaine de Kikwit demande aux commerçants les preuves palpables montrant que les expatriés vendent en détail. Et plus de détails Irène Boma.
D'après les commerçants congolais de la ville de Kikwit qui se disent victimes, leurs activités commerciales ne tournent plus bien. Ils attribuent cela aux opérateurs économiques expatriés, propriétaires de grands établissements sur place qui sont supposés être des grossistes, mais qui vendent encore leurs articles en détail en l'air des faveurs.
Ce sont ceux qui nous vendent en gros. Après nous, ils prennent les prix en gros, ils les mettent encore en détail. Alors que eux, ils sont importateurs, eux, ils sont grossistes. Quand ils vendent en détail, vous voyez avec le comportement des nationaux, donc nous, on n'arrive plus à vendre dans nos magasins. C'est ce qui nous choque.
Pour pallier à cette situation, ces commerçants en appellent à l'intervention des autorités attitrées.
On voulait demander l'intervention des autorités pour contraindre les expatriés qui sont acquittés de respecter la loi sur les petits commerces, qu'ils ne puissent plus vendre à détail.
Contacter le chef de bureau des services de l'économie urbaine de Kikwit rejette en bloc toutes ces allégations. Ilongo Kamwanda demande aux commerçants compatriotes congolais de Kikwit de présenter les preuves qui montrent que ces expatriés vendent en détail. Par contre, il fait savoir que ce sont ces nationaux qui ne respectent pas la loi et ne veulent pas être contrôlés. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
On parle encore du marché, cette fois dans la province du Maniema, où le maire de Kindu a lancé les travaux de réhabilitation des pavillons en état de vétusté au marché central de Kindu. Plus de remplacement des tôles, ces travaux vont consister aussi à la réhabilitation des installations sanitaires de ces marchés, a dit Dr Unganda Polimo et à Octave, maire intérimaire de la ville de Kindu, au micro de Florence Kizalunga.
Étant donné que ce marché central est géré par la mairie de Kindu, c'est pourquoi je suis allé voir l'état de ce marché central. Effectivement, on a retrouvé en tout cas des tôles abîmées. Au niveau des installations sanitaires aussi, il n'y a même pas moyen que le vendeur puisse accéder dans ces installations sanitaires. Et c'est ce qui m'a motivé. Nous avions entrepris une démarche afin que nous puissions commencer à réhabiliter. Et vous aviez observé vous-même comment les travaux ont commencé, en réhabilitant pavillon par pavillon jusqu'à ce que nous allons achever. Vous savez que la rétrocession fait un défaut. Aujourd'hui, presque une année, on ne reçoit rien. Mais néanmoins, c'est une organisation interne avec des petites taxes. On ne pouvait pas quand même laisser les biens être abîmés de cette manière que venait de constater. Il fallait d'abord que nous puissions amorcer. Après, j'essaie avec son excellence, monsieur le gouverneur de province, il va nous venir en aide lorsque nous serons bloqués.
Retournons dans la province du Kwilu où le gouvernement provincial décide d'enquêter sur la gestion du marché central des Bandundu situé au quartier Mampouya dans la commune d'Isasi. Décision prise lors de la réunion du Conseil des ministres présidée ce samedi par le gouverneur des provinces Willy Ichundala. Maître Mouma Zéphirin, porte-parole du gouvernement, qui l'a dit à la presse, indique que le gouvernement a pris cette décision parce qu'il a constaté que les vendeurs de ces marchés qui ont été chassés et installés au marché des Malébo sur ordre de la mairie au mois de décembre 2019 sont tous retournés au marché des Mampouya depuis le mois de décembre dernier. Le ministre de l'Intérieur et celui des Affaires foncières sont instruits d'effectuer cet audit sur pourquoi les vendeurs sont revenus et de délimiter ces marchés. Maître Mouma Zéphirin l'a dit au micro d'Irène Boma.
Le constat d'abord, c'est qu'on a marqué le retour des gens qui étaient dans le marché de Malébo, qui sont en train de revenir, là on appelle le grand marché, vers lui là. Alors, on se pose la question, pourquoi ce retour en masse? Est-ce que la décision a changé? Est-ce que le maire de la ville a changé la première décision? Et qu'il y a eu des plaintes, il y a des commerçants qui se sont plaints sur cette question. Et le gouverneur de province a ordonné qu'on ouvre des enquêtes et qu'on rétablisse les limites initiales de ce marché-là. La commission va faire son travail et nous verrons qu'est-ce qu'il faut par la suite. Quelle décision faut-il prendre quand la commission aura déposé son rapport au gouverneur de province? Il y a le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires foncières. Le ministre de l'Intérieur, c'est pour savoir qu'est-ce qui a motivé ce retour, comment le maire de la ville a pu changer sa décision. Quand il avait décidé de guérir les gens qui débordaient sur le marché, il a bénéficié de l'appui de la province. Comme ça, le ministre de l'Intérieur a été instruit pour enquêter sur le dossier.
19h14 à Boutembo, où les personnels de la prison centrale de Kagwangura, les policiers et militaires commis à la garde de cette maison carcérale, ont été formés ce samedi sur la prévention d'une attaque de la prison suivie d'une tentative massive d'évasion massive organisée par l'unité pénitentiaire de la MONUSCO. Cette formation assortie d'un exercice de simulation a pour but de renforcer les capacités de ses agents de sécurité afin de faire face à un éventuel incident à la prison de Boutembo et éviter de vivre ce qui s'est produit en octobre dernier à la prison des Kangbay de Beni. Cette activité a été menée en collaboration avec la police ainsi que les soldats marocains de la MONUSCO. Vincent Nkoulou Obam, l'officier pénitentiaire de la MONUSCO Boutembo, explique au micro des Grâces Hamzati.
Vous savez, après l'attaque de la prison de Beni, la prison de Boutembo est devenue une potentielle cible pour les groupes armés. Nous vivons depuis un certain temps sous la menace d'une attaque de la prison de Boutembo. Et nous devons prendre des dispositions pour que le personnel soit prêt à faire face à cette attaque. Comme vous le savez tous, les mutineries, les évasions et tentatives d'inclusion dans les prisons sont des événements imprévisibles, mais récurrents qui peuvent avoir des conséquences graves sur la vie carcérale. Il est donc primordial que les responsables de prison prennent des mesures de planification et de préparation afin de réduire le risque et d'atténuer les effets d'une éventuelle attaque. C'est à juste titre que Correction Unique de la MONUSCO a appuyé les autorités de la prison ce jour dans l'organisation d'un exercice de simulation. L'objectif est de renforcer les capacités des personnels de sécurité sur la prévention des incidents et évaluer l'efficacité de la réaction des agents chargés de la sécurité dans la prison.
Actualité internationale.
En Éthiopie, le chef du TPLF refait son apparition alors que deux rumeurs le donnaient pour mort. Les leaders de ce qui est désormais la rébellion armée du Tigré, Debretsion Gebremichael, a fait et diffusé samedi 30 janvier un long message par sa chaîne de télévision satellite qui a repris ses émissions. Cela faisait des semaines qu'on n'avait pas entendu sa voix. Notons qu'il a été le chef de l'exécutif de la province du Tigré jusqu'au 4 novembre et ancien vice-premier ministre d'Éthiopie, mais qui est désormais un fugitif.
L'invité.
Le chef de l'État a remis un chèque d'un montant de 10 milliards de francs congolais à l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieux ruraux et périurbains. Et c'est dans le cadre du projet d'électrification des milieux ruraux et périurbains à travers le fonds Mwinda. Pour en savoir un peu plus, Billy Ivan Lutumba s'est entretenu avec Idesbald Chinamula, directeur général de cette agence. On l'écoute.
Idesbald Chinamula, bonjour.
Bonjour.
Que sont les axes principaux de ce fonds que vous venez de lancer avec le chef de l'État qu'on appelle Fonds Mwinda?
Fonds Mwinda, c'est une stratégie que nous avons mise en place pour mobiliser les ressources. Pour électrifier ces pays, il faut des ressources. On ne peut pas faire de l'électrification dans les zones rurales et périurbaines sans ressources. Et la mission qu'on nous confie en tant qu'ANCER, c'est aller dans les zones rurales et périurbaines. Et pour arriver à convaincre les entreprises d'aller dans ces zones-là, il faut mettre en place ces incitations financières. Pourquoi les entreprises ne vont pas dans les zones rurales et périurbaines? Elles disent qu'il n'y a pas assez de demandes solvables, il n'y a pas assez d'argent. Les populations sont pauvres et défavorisées. Deuxième observation qu'elles font, c'est qu'il n'y a pas de marché financier qui puisse soutenir leurs activités. Les entreprises sont également prêtes à faire des crédits aux ménages, mais ne sont pas certaines qu'il y ait des remboursements à terme par les ménages. Donc ça, c'est des aspects importants qui nous poussent justement à mettre en place ces leviers financiers.
Qu'est-ce que vous avez déjà mis en place pour séduire ces opérateurs?
Première chose, c'est montrer les potentiels qui existent. Nous avons fait déjà des études qui ont démontré que la RDC a un potentiel large et décentralisé. Deuxième chose que nous avons faite et que nous continuons à faire, c'est démontrer que le Congo, c'est un marché. Et ce marché, il est viable, quoi qu'il en soit. En tout cas, dans certaines zones, il y a des revenus, même si l'apparence peut tromper. Troisième élément, les études de faisabilité dans certains endroits que nous mettons à la place publique, et la plupart des études montrent que les projets dans les secteurs de l'énergie renouvelable en RDC sont bien rentables pour justement essayer de déchanter tout ce que nous avons reçu comme écho à ces jours.
Fonds Mwinda a besoin de 500 millions de dollars pour desservir pour approximativement 15 millions. Et vous devez aller jusqu'à 2024. Pensez-vous que le projet est faisable dans ce laps de temps?
À un moment, le chef de l'État nous a posé cette question technique. Est-ce que vous pensez que c'est possible techniquement? Nous avons effectivement consulté des experts. Il y a eu des études qui ont été menées. Techniquement, j'affirme encore que c'est possible d'électrifier ces pays à concurrence de 30% d'ici les 4 prochaines années, d'ici en 2024. C'est possible de mobiliser ces ressources. Tout le problème, c'est de comment on va monter cette ingénierie financière. Entre autres, c'est à quoi sert le fonds Mwinda? C'est vraiment pour nous un peu comme une intelligence que nous avons mise en place pour pouvoir capter les fonds. Et pour ça, il faut d'abord une contribution importante du gouvernement qui doit donner l'ego, qui doit donner l'exemple. Le chef de l'État vient de poser un acte extrêmement important. C'est symbolique, 5 millions de dollars, mais ce qui est important, c'est l'appel qu'il a fait au gouvernement en prenant aussi un engagement ferme qui est désormais, à partir de maintenant, dans les budgets de l'État pour toutes les années pendant qu'il sera là au pouvoir, il faut qu'il y ait une allocation importante pour alimenter les fonds Mwinda. Nous comptons aussi sur la solidarité nationale. Il y a beaucoup de compatriotes qui vivent au Congo, qui vivent à l'extérieur du Congo, qui sont prêts à soutenir aussi leurs frères à accéder à l'électricité. Donc des contributions volontaires, on les attend. Mais aussi, il y a des partenaires. Je les cite en dernier lieu parce que je ne veux pas vraiment qu'on pense toujours que pour aller de l'avant, construire ces pays, bâtir ces pays, il faut nécessairement commencer par les partenaires. Ce que le chef de l'État fait, c'est très important. Il dit, nous devons commencer par nous-mêmes, montrer de quoi nous sommes capables. Et donc, à partir de cet effort qui est fait, je suis convaincu qu'ils vont également se joindre à nous et qu'on pourra réunir ces 500 millions.
On est déjà début 2021. À partir de quel moment pensez-vous la concrétisation des différents projets d'électrification des milieux ruraux et périurbains?
Nous sommes en pleine étude en ce moment, en train de travailler sur le plan d'électrification qui va justement nous permettre de cerner les priorités. Mais je vais vous rassurer que c'est des solutions qui se mettent en place dans les 3, 4, 5 à 6 mois. On peut avoir des solutions. J'ai déjà montré la carte comment ces entreprises sont en train de prendre des positions sur l'ensemble du pays. Pour l'instant, les entreprises existent et offrent des solutions. Mais ces entreprises sont pour l'instant localisées dans les chefs-lieux des provinces. Nous voulons qu'elles desservent l'arrière-pays des provinces. Cette année, on va déjà avoir quelques initiatives pilotes, le temps de faire des tests et de s'assurer que les mécanismes marchent. Parce que c'est un mécanisme qui va utiliser les paiements digitales.
Dans vos projections, c'est pour que un ménage congolais de Katakokombe, de Tingitingi puisse avoir de l'électricité à quel coût?
Les ménages vont en fait bénéficier des équipements pour leur électrification sans pouvoir payer cash, mais avec un amortissement sur 12 à 36 mois. Et sur cette base-là, les ménages vont commencer donc à payer régulièrement les acomptes et l'État prendra en charge une partie des coûts d'acquisition de ces équipements pour permettre d'alléger les fardeaux aux ménages. C'est cette subvention, subside, que les fonds Mwinda prendront en charge.
Monsieur Idesbald Chinamula, merci.
C'est moi qui vous remercie.